allez écouter un message de l'Église Nouvel Espoir à Ottawa, en Ontario, au Canada. Ce message a pour but votre transformation afin de transformer votre famille, votre ville, votre entourage. L'Église Nouvel Espoir, c'est des vies transformées pour transformer.
J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup présenter Luc Dumont. C'est un privilège de présenter Luc Dumont. Luc sillonne, son cœur sillonne la francophonie depuis une vingtaine d'années. Je pense que chacun de nous, nous connaissons pas mal Luc Dumont, mais pour ceux qui peut-être ici dans la salle ne connaissent pas Luc, Luc est un chanteur, Luc est un prédicateur, Luc est un motivateur. Et aujourd'hui, nous avons le privilège de recevoir Luc Dumont de Montréal à l'Église Nouvel Espoir.
Eh bien, merci encore une fois de me recevoir. Et particulièrement en début d'année comme ça, j'aime énormément apporter la parole. J'aime toujours apporter la parole, mais en début d'année, je trouve qu'il y a quelque chose de spécial dans l'air. Et moi, j'ai toujours l'impression, en tout cas personnellement, pour moi, le début d'année, chaque début d'année, c'est comme si je mettais le compteur à zéro et on peut recommencer. Peu importe ce qu'il y a eu avant, on peut recommencer. Et cette année, j'ai déclaré dans ma vie, 2014, une année extraordinaire. Par la foi, par la grâce de Dieu, 2014 sera une année extraordinaire. Peut-être qu'il va y avoir des batailles, peut-être qu'il va y avoir des luttes, peut-être qu'il va y avoir des obstacles en cours de route, mais malgré ça, c'est possible d'avoir une année extraordinaire. Et un nouvel espoir, rien de moins que l'extraordinaire. Parce que mon Dieu est extraordinaire. Amen. Et moi, je suis de ceux qui croient vraiment, si vous me connaissez, si vous m'entendez depuis des années, je suis de ceux qui croient au principe de gloire en gloire. Moi, je crois, à chaque année, c'est toujours mieux que l'année d'avant. Plus je vieillis, mieux que c'est. Je suis mieux aujourd'hui qu'il y a 20 ans. Il y a du scepticisme dans la salle. Les circonstances... L'enfant de Dieu ne dépend pas des circonstances. L'enfant de Dieu influence les circonstances et réagit dans les circonstances. Alors, peu importe les circonstances, c'est possible de vivre quelque chose d'extraordinaire. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a des gens qui ont tout pour que ça aille bien, puis sont malheureux. Il y a d'autres personnes que j'en connais plein qui ont tout pour que ça aille mal et sont heureux. Il y a des gens, récemment, j'ai dit à quelqu'un, j'ai dit, arrête! Il se plaignait à fond. J'ai dit, si, la majorité des gens que je connais, s'il y avait 10% des bénédictions que tu as, ils flairaient. Voyez-vous? Alors, ce matin, c'est une décision. 2014, c'est une décision. Je choisis que 2014 va être une année extraordinaire. Amen, je l'ai dit, c'est fait, je l'ai dit. Et ce matin, je veux dire ça, pourquoi? Parce que j'ai un message qui s'intitule 2014, un chant nouveau. Et je dis ça parce que beaucoup de gens que je connais dans mon entourage, des amis, des collègues dans le ministère, des églises même, ont une année, beaucoup de gens ont une année 2013 difficile. Plein de gens que je connais qui ont une année 2013 particulièrement difficile. Et vous m'avez déjà entendu probablement le dire, mais je suis un passionné de vélo. J'aime beaucoup le vélo. Et pour beaucoup de gens, 2013 a été une année vente-face. Si vous faites du vélo, vous comprenez exactement ce que je veux dire. Il y a une énorme différence entre rouler avec le vent en face et le vent dans le dos. Le même cycliste, tout à coup, n'est plus le même cycliste. Et l'année passée, j'ai réalisé un rêve que ça fait des années que je voulais faire ça. J'ai fait la traversée des Keys en Floride. De Miami jusqu'à Key West, c'était comme des petits ponts et des langues de terre qui t'amènent. C'est magnifique. Des fois, tu roules de la mer des deux côtés. Et j'ai fait une section 180 km, une journée avec le vent d'en face toute la journée. Un vent de fou, comme cette nuit. Je ne sais pas ce qu'il a vanté chez nous, il a vanté très fort cette nuit. Un vent, là, des fois, toutes mes forces, j'avançais presque pas. Et je dois vous avouer, alors que j'étais en train de réaliser mon rêve, ça fait des années que je voulais faire ça. Là, j'étais en train de le faire, j'haïssais mon vélo, j'ai rien vu du paysage, j'avais la face dans le guidon, Et toute la journée, j'ai pensé lâcher. Qu'est-ce que je fais là? C'est plate. Pourquoi je fais ça? Puis c'est que personne qui m'a forcé à faire ça. Et toute la journée, j'agonisais et j'ai perdu complètement l'eau turquoise qui est en arrière. J'ai comme rien vu de ça. Vent d'en face. Il y a plein de gens ici ce matin, peut-être que votre année 2013, ça a été comme ça, le vent en face, tu as travaillé fort, on a survécu, on s'est rendu jusqu'à la fin de l'année, mais tu as l'impression de ne pas avoir progressé dans la mesure où tu as fait des efforts. Mais je vais vous dire ceci, que la deuxième journée, quand je suis revenu, vent de dos. Le vent a viré de bord pendant la nuit et il était tellement fort dans le dos que des fois, je pédalais à peine et je roulais 50 km/h. Ça, c'est super. Tout à coup, le paysage, j'ai pris plein de photos. Ça, cette photo-là, je ne l'ai pas prise en allant, je l'ai prise en revenant. Tout à coup, j'ai vu le paysage, j'ai découvert. Tout à coup, je voulais en faire plus. À la fin de la journée, je dis encore plus, d'autres voyages, d'autres vélos. C'est merveilleux. La seule différence, vent de dos. Pourquoi je vous dis ça ce matin? Je vous dis ça parce que il est possible pour le vent de changer de bord. Alors, peu importe si vous avez eu du vent en face en 2013, vous pouvez avoir le vent dans le dos en 2014. Amen! Je suis hyper encouragé. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul dit dans Philippiens, au chapitre 3, versets 13 et 14, il dit, je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière, 2014, je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière, 2013, et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Et ce qui est très intéressant, ça peut arriver juste une fois dans ta vie, une affaire comme ça. Philippiens 3, 13. 2013. J'oublie ce qui est en arrière. Verset 14. Me porte vers ce qui est en avant. 2013, 2014, ça ne pourra plus jamais arriver, une affaire comme ça. Yes! Et je pourrais parler une heure juste sur ce verset-là. C'est de valeur que je n'ai pas plus de temps, mais je me ferai réinviter, puis je le ferai peut-être. Mais simplement vous dire ceci. C'est qu'il dit, je fais une chose. L'apôtre Paul avait compris le concept, l'importance de focaliser. Il a dit, je fais une chose. J'oublie ce qui est en arrière. Puis quand il dit ça, là, il fait allusion à son ancienne vie en tant que pharisien. C'était un héros. Dans son milieu, l'apôtre Paul, il s'appelait Saul de Tarse à l'époque. Dans son milieu, c'était un héros. C'était le top. Il était bien vu. Puis il y avait des diplômes, il y avait tout, il y avait la réputation, il y avait les diplômes, il y avait du succès dans son milieu. Puis il dit tout ça, je regarde, je mets ça en arrière, parce que j'ai trouvé le but de ma vie, Christ. Et je cours pas pour perdre, je cours pour gagner. Dans quelques semaines, il va y avoir les Olympiques. Et j'écoutais une entrevue à la radio avec Marcel Aubut, qui est le président du Comité olympique canadien. Puis il dit, ça m'a frappé quand il a dit ça, il dit, c'est fini l'époque d'envoyer des athlètes aux Olympiques pour participer. Il dit, cette année, on y va pour gagner des médailles. Puis je pensais à ça. Je cours vers le but pour remporter le prix de ma vocation, de l'appel qui est sur ma vie. Alors, 2014, on va gagner. Parce que Dieu est de notre bord. 2014, peut-être que vous avez eu des défaites en 2013. Je déclare 2014 une année de victoire. L'Église, victoire. Votre ministère, victoire. Votre famille, vos enfants, vos finances, chaque aspect de notre vie, notre santé, victoire en 2014. Amen. Alors, ça sera l'introduction du prochain message. Mais je veux vous proposer ce matin comment on va avoir une année 2014 différente de 2013. Et comment on va le faire, c'est à travers, en défrichant un champ nouveau. Je veux parler ce matin de nouveau. Dieu, c'est un Dieu de choses nouvelles. Et je veux vous proposer, vous challenger, vous défier, et je le fais dans ma propre vie ce matin. Je veux vous défier en tant qu'Église, mais en tant qu'individu, je veux vous défier à défricher un champ nouveau. Défricher un champ nouveau, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire saisir des nouvelles opportunités que Dieu place sur notre route. Ça veut dire embrasser les choses nouvelles que Dieu désire opérer dans notre vie. Vous avez le droit de dire amen n'importe quand. Ça veut dire de réinventer, pour certains, réinventer sa vie. Créer quelque chose de nouveau à partir de quelque chose qui existe déjà. Avoir une nouvelle vision de notre champ. se lancer avec anticipation dans la nouvelle saison. Je ne commence pas 2013-14 la tête basse, je commence 2014 avec anticipation. Aller de l'avant malgré les imperfections du présent. Relever la tête pour certains, retrousser ses manches, foncer vers l'avenir malgré les défaillances, les erreurs et les échecs du passé. C'est croire que le meilleur est à venir avec le Seigneur. Je déclare sur vous ce matin et sur moi, le meilleur est à venir avec le Seigneur. C'est un mensonge qui nous est communiqué constamment, avec lequel il faut se battre constamment, le mensonge que le pire s'en vient. Tout le monde ici, sans exception, je suis sûr, constamment, on a cette pensée, le pire s'en vient. Ça va aller moins bien, tu vas avoir moins d'argent, tu vas être plus malade, ça va être plus difficile, tes enfants vont moins suivre le Seigneur, ta job est de moins en moins certaine. On pense comme ça. C'est le contraire de la Bible. La Bible, c'est le meilleur s'en vient avec le Seigneur. Et je ne dis pas ça pour vous encourager ce matin. Je le dis parce que c'est la vérité. Ce serait un autre message ça aussi. Mais notre vie, c'est un combat constant contre le mensonge. En réalité, tous les jours, on se fait bombarder de mensonges. Et pire que ça, on se bombarde nous-mêmes de mensonges. Puis les mensonges sont pires entre minuit et 6 heures du matin. Là, c'est que du mensonge. C'est pour ça qu'il faut revenir dans la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu, c'est la vérité. Et ce matin, j'ai fait 2 heures de route pour venir annoncer la vérité en ce début d'année. La vérité, c'est qu'en Dieu, le meilleur est à venir. C'est pour ça qu'il faut commencer. Il ne faut pas attendre dans 20 ans, il ne faut pas attendre dans 50 ans, il faut commencer tout de suite. Mark Twain, qui est un auteur célèbre, il a dit « Dans 20 ans, nous serons plus déçus par les choses que nous n'aurons pas faites que par celles que nous aurons faites. » Alors, larguons les amarres, naviguons loin de la sécurité du port, le vent dans les voiles, explorons, rêvons et découvrons. Un bateau, là, c'est pas fait pour rester dans le port. C'est sécuritaire, le port. Tu es attaché, c'est safe. Si ça brasse un peu, tu peux débarquer. Mais ça n'a pas été créé pour ça, c'est fait pour partir à l'aventure. Lâchez le port en 2014. Vous voulez qu'il se passe quelque chose? Si vous restez au port, voici ma prophétie. À la fin, à Noël 2014, vous êtes encore au port. Quel prophète, n'est-ce pas? Mais si tu détaches, puis tu pars, tu ouvres les voiles, on verra ce qui arrivera. Mais là, je vous promets ceci, ça ne sera pas pareil à la fin de l'année. Et que c'est bon, hein? Il y a une dame qui s'appelle Bronnie Ware, qui a passé une grande partie de sa vie à s'occuper des gens mourants, des gens qui étaient en train de mourir à la fin de leur vie. Elle a publié un livre, ça s'appelle « The Top 5 Regrets of the Dying », les 5 plus grands regrets de ceux qui sont à la fin de leur vie. Et ça m'a frappé vraiment quand j'ai lu ça. Elle dit, les 5 plus grands regrets, c'est, voici les 5 plus grands, à force de parler avec du monde, ce qui est sorti le plus souvent, c'est, premièrement, j'aurais dû me permettre d'être plus heureux. Donc, je me le permets à partir d'aujourd'hui. C'est un choix, hein? C'est un choix. Je peux être misérable, baboune, boudé pour le prochain 20 ans, ou je peux choisir, même si le compte de banque est vide, même s'il y a des problèmes, je peux quand même choisir d'être heureux. Amen. Deuxième plus grand regret, j'aurais dû rester en contact avec mes amis. Et très souvent, et ce sera pour un autre message, je vais continuer. Troisièmement, j'aurais dû avoir le courage d'exprimer davantage mes sentiments. Voyez-vous? Quatrième, j'aurais pas dû travailler si fort. C'est très rare que quelqu'un qui est sur le lit de la mort dit « J'aurais dû passer plus de temps au bureau. » Et celui qui est sorti le plus souvent, c'est « J'aurais dû avoir le courage de vivre une vie qui me ressemble et non la vie que les autres désiraient pour moi. » Alors, ce matin, je choisis de défricher un champ nouveau, mon champ, la vie que Dieu a pour moi et vivre à fond en 2014 la vie que Dieu a préparée pour chacun d'entre nous. Parce que Dieu a préparé une vie pour toi, pour vous ce matin. Et des fois, on vit notre vie pour impressionner les autres, pour plaire aux autres, pour ne pas décevoir les autres. Mais les autres, ils ne pensent pas à nous autres, ils pensent à leur vie à eux. Donc, vis ta vie à toi, celle que Dieu a choisie pour toi. Ça sera pour un autre message aussi. Alors, ce matin, je veux parler de nouveau, de nouveauté. Dieu ne change jamais, mais il est le Dieu du nouveau. C'est fort, ça. Dieu ne change pas, mais il se tient tout le temps dans le nouveau. Donc, si on n'est pas dans le nouveau, Dieu décroche. Si tu veux être sûr que d'être dans les affaires de Dieu, si tu dis, moi, j'aimerais ça que Dieu soit dans ma vie, Dieu soit tout le temps là, puis je veux que Dieu participe, puis que je sois dans les affaires de Dieu, tiens-toi dans le nouveau. Parce que Dieu est tout le temps en train de faire des choses nouvelles, quoi que lui ne change pas. Et il y a une puissance phénoménale, mes amis, quand tu te lances dans le nouveau. C'est très, très spécial. Tu vois des gens, des fois, déprimés, des gens qui tournent en rond, des églises qui tournent en rond, qui n'avancent pas. Tu vois des individus qui sont dépressifs, découragés. Et tout à coup, ils initient ou ils se lancent dans quelque chose de nouveau. Et tout à coup, bang! Il y a une énergie qui prend place. C'est très, très puissant. Donc, si vous voulez être sûr d'être constamment à pleine énergie pour le Seigneur, tenez-vous dans le nouveau. Et 2014, commencez quelque chose de nouveau. Défrichez un champ nouveau. Défricher un champ nouveau, c'est parler d'un champ qui n'existe pas encore, mais d'en parler comme s'il existait déjà. Il y a une expression anglaise, on est à Ottawa, donc je peux l'utiliser. Une expression anglaise qui ça se traduit pas bien en français, mais ça dit « speak into existence », parler comme si la chose existait déjà. Et c'est ça la vraie, la foi, c'est ça. C'est que tu parles d'affaires, depuis tantôt je fais ça. On parle d'affaires qui n'existent pas, mais on parle comme s'ils existaient déjà. Hébreux 11, 1 dit, « Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Donc, le champ nouveau, c'est de parler d'un champ qui n'existe pas, mais on en parle comme s'il existait. Il y a plein d'affaires dans nos vies qui n'existent pas encore, mais on peut tout de suite en parler comme s'ils existaient. Il y a plein d'affaires qui vont arriver en 2014 de la part de Dieu, et j'en parle tout de suite comme si elles existaient déjà. Salomon, on va regarder à Salomon dans les prochaines minutes. Salomon est un bel exemple de quelqu'un qui a défriché un champ nouveau. C'est-à-dire qu'il a amené le nouveau à un autre niveau. Il faut comprendre que Salomon, c'est un roi. C'est le fils du roi David. Avant le roi David, il y a eu le roi Saül. Le roi Saül a abandonné les choses de Dieu. Il y a eu comme une apostasie qui est venue, une mort spirituelle pendant la période de Saül. Quand David est devenu roi, il a amené le nouveau. C'est le roi du nouveau. C'est-à-dire qu'il a ramené l'arche de Dieu à Jérusalem. Il a rétabli l'adoration, tout ça. Il y a eu comme un genre de réveil spirituel sous David. C'est un roi d'un temps nouveau. Le fils de David, c'est Salomon. Le fils de Salomon aurait pu rester sur le nouveau de son père et surfer sur la vieille vague. Mais Salomon a pris le nouveau et il l'a amené à un autre niveau. C'est-à-dire que non seulement son père a ramené l'adoration, mais lui a construit le temple. Et il a amené un réveil, il a rétabli le ministère des Lévites, il a rétabli l'ordre, et il s'est amené une vague sans précédent sur le peuple. Donc, il a pris quelque chose qui existait déjà, mais il a fait du nouveau avec de l'ancien. Parce que le nouveau devient ancien très rapidement. Donc, il faut réinventer ce qui existe déjà. Ça, c'est extraordinaire. C'est ça, défricher un champ nouveau. C'est défricher quelque chose qui existe déjà, mais l'amener à un autre niveau. Je vous donne un exemple. En novembre, je suis allé à l'île de la Réunion où Dieu habite pendant l'hiver. Je suis obligé de me soumettre à l'appel de Dieu. Entre deux prédications, je suis obligé de me détendre. Et ils m'ont initié à cette activité qu'on appelle le stand-up paddle, SUP, S-U-P. Et ça, là, c'est en train de devenir extrêmement populaire. Dans les prochaines années, on va en voir partout de ça. C'est, en fait, c'est comme une planche de surf, mais pour ceux qui ne font pas de surf. En réalité, le surf, c'est extrêmement difficile, et là-bas, c'est plein de requins en plus, mais le surf, c'est extrêmement difficile, et ce n'est pas tout le monde qui peut faire du surf. Alors, ils ont pris la planche de surf, ils l'ont allongée un peu, agrandie un peu, ils ont fait une rame, puis ils ont démarré un sport qui s'appelle le stand-up paddle, et tu te mets debout, et là, tout à coup, des enfants, n'importe qui, peut monter sur la planche avec un peu d'équilibre, et tu peux passer la journée à faire ça. Et ça a développé un marché incroyable. Donc, ils ont inventé quelque chose de nouveau à partir de quelque chose qui existait déjà. C'est exactement ce que Dieu veut faire dans nos vies. Peu importe où nous sommes en ce moment, Dieu est capable de faire du nouveau. Et pour ça, il nous appelle à défricher un champ nouveau. Proverbes, chapitre 13, verset 23, Salomon dit ceci. Il dit, « Le champ que défriche le pauvre donne une nourriture abondante. » Et c'est très intéressant que Salomon utilise l'exemple d'un pauvre. C'est-à-dire que si Salomon aurait pu écrire « Le champ que j'ai défriché donne une nourriture abondante », mais il n'aurait pas été crédible. Parce que tout le monde aurait dit « Ben oui, c'est sûr que ça marche en enfer, t'es le fils du roi David, t'es toi-même roi, t'as plein de cash, t'as plein d'argent, t'as plein de ressources, c'est sûr que tu vas mettre la meilleure semence, puis tout ce que tu vas faire, c'est sûr que ça va marcher, t'es déjà riche. » Alors ça n'aurait pas été crédible son message. Alors il a dit « Le champ que défriche le pauvre, ça marche même pour le pauvre. » Autrement dit, ça marche pour tout le monde. Voyez-vous? Et ce qui est très intéressant, lorsqu'il parle de ce champ, il parle de défricher un champ. Mais comprenez bien ceci. Le mot qu'il utilise pour défricher, c'est le mot « nir », en hébreu « nir ». Et ce mot-là est utilisé pour culture récente et sillon frais. Le champ que défriche le pauvre. Autrement dit, le nir, le champ qui est nir, c'est-à-dire la culture récente. C'est pas juste un champ qui est là. Dans ce champ-là, on développe une culture récente et des sillons frais. Je vais aller encore plus loin. Si vous tournez dans Jérémie chapitre 4, verset 3, ça dit, « Car ainsi parle l'Éternel aux hommes de Juda et de Jérusalem. Défrichez, nir, défrichez-vous un champ nouveau et ne semez pas parmi les épines. » Ce que Jérémie est en train de dire ici, c'est qu'il fait allusion à un champ déjà existant, mais qui a été abandonné, qui a été négligé, et auquel on redonne la vie. Tout à coup, dans le champ, nir, dans ce champ-là qui est en train de mourir, défrichez-vous un champ nouveau, nir, des sillons frais, une culture récente. La seule façon que le champ va pouvoir produire à nouveau, il faut absolument tracer des sillons frais et faire une culture récente. Et c'est extrêmement important que vous compreniez, je ne suis pas un expert en agriculture, mais j'ai mon grand-père qui a passé sa vie dans l'agriculture, il m'a beaucoup parlé d'agriculture, puis j'ai lu un peu là-dessus sur le sujet. Il faut savoir qu'un champ, à force d'être cultivé, à un moment donné, la terre ne produit plus rien. À un moment donné, il y a des épines qui poussent. Et à un moment donné, ça donne, on dirait que tu peux passer des heures dedans, puis ça ne donne plus rien. Et la seule façon pour qu'il puisse donner naissance à nouveau, en quelque sorte, il faut nir. Il faut défricher un champ nouveau, pas nécessairement à l'ailleurs, mais il faut tracer des sillons frais. Il faut établir, brasser la terre et faire une culture récente. C'est pour ça que le Seigneur, parfois, nous brasse. Il est nécessaire, mes amis, d'être brassé par le Seigneur pour qu'il sorte quelque chose de nouveau. Il y a quelques amen, mais c'est la vérité quand même. Et certains d'entre nous, on a été brassés peut-être en 2013. Mais si on se tient dans le nir, si on défriche du nouveau constamment, il y a quelque chose, des sillons frais, il y a quelque chose qui va prendre place. Il faut tracer des sillons frais à notre vie. Il faut qu'il y ait une culture récente dans notre vie. Et là, il faut que vous compreniez, encore une fois, il faut que vous compreniez que Jérémie s'adresse, lorsqu'il dit ça, il s'adresse au peuple d'Israël captif. Il faut savoir que ce peuple-là a déjà porté beaucoup de fruits. Ce peuple-là a déjà vécu la gloire de Dieu, a déjà vécu des grandes choses. Leur champ a déjà produit énormément. Mais au moment où il leur dit ça, c'est la galère totale, c'est la catastrophe, il n'y a plus rien, c'est la mort, ils sont captifs, ils sont abandonnés, il n'y a plus d'espoir à leurs yeux. Et au milieu de leur désespoir, Jérémie dit, « Nir, votre terre qui a l'air morte peut encore donner des fruits. » Mais il faut une culture récente, il faut des tracés, des sillons frais. Et c'est pour ça qu'il va leur dire dans Jérémie chapitre 29, verset 11, il va « speak into existence », il va leur parler comme si la chose était déjà là. Il dit « Je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Mais quand il dit ça, ils sont en plein dans la captivité. À leurs yeux, il n'y a plus d'espoir. Puis il leur dit « Attention, Dieu parle comme si la chose existait déjà, même si en ce moment il fait noir, le soleil existe encore. Et j'ai formé sur vous des projets de paix. » C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que l'avenir avec Dieu est toujours de mieux en mieux. J'ai des projets de paix et non de malheur. Et 2014, je prononce sur votre vie et sur cette église des projets de paix et non de malheur, car il y a un avenir et de l'espérance. Amen. Mais pour que ça arrive, ça prend nir. Ça prend des sillons frais, ça prend une culture récente. On ne peut pas entrer, écoutez bien ça, on ne peut pas entrer dans le champ nouveau en demeurant accroché à nos réussites ou nos échecs du passé. Ça, c'est en tant qu'individu et en tant qu'Église. On ne peut pas entrer dans le nouveau si on reste accroché au passé. Si nous voulons que notre champ soit productif, nous devons continuellement défricher et tracer des sillons frais afin qu'il y ait constamment une culture récente. Mes amis, faites extrêmement attention au vieux champ. Un vieux champ, c'est extrêmement dangereux. Pourquoi? Parce que dans un vieux champ, on s'ennuie. Et quelqu'un qui s'ennuie produit jamais rien de bon. J'ai jamais vu quelqu'un passer une longue période, là, j'ai passé quelques mois d'ennui, là, puis à la fin, waouh, la gloire! Non, non. L'ennui dans la vie de quelqu'un produit tout le temps la catastrophe. Le roi David lui-même l'a vécu. Le roi David, c'est un gars qui ne s'ennuyait pas du tout. Il avait une vie d'action, harpiste, troupeau, Goliath, géant, guerre, bataille, héros de guerre, toutes sortes d'affaires incroyables. À un moment donné, il a eu plein de succès, puis à un moment donné, il a eu comme relaxé. Puis la Bible dit qu'à un moment donné, il était tellement relax qu'il ne s'endormait plus la nuit. Vous savez, quand tu es plus fatigué, tu ne dors pas la nuit. Donc, il ne s'endort pas la nuit, il se promène sur le toit la nuit parce qu'il ne s'endort pas. Quand il était à la guerre et actif, il dormait la nuit, brûlé le soir quand il dort. Mais là, il n'est pas fatigué, il ne fait rien. Donc, il se promène la nuit, il voit cette femme, Bathsheba, et il va avoir toute une aventure avec cette fille-là qui va amener une catastrophe sur sa vie pendant des années à venir. Tout ça dans un moment d'ennui. Et là, je trouve que David a les épaules très larges. Souvent, on accuse beaucoup David dans cette histoire-là, tout ça. Mais juste une petite parenthèse pour vous dire, qu'est-ce qu'elle faisait Bathsheba toute nue à 2h du matin? Ça sera pour un autre message une autre fois. Voyez-vous? Attention à l'ennui. Mesdames, si votre mari s'ennuie, attention, donnez-y un champ, défrichez un champ, il faut qu'il soit occupé. Mesdames, messieurs, si votre femme s'ennuie, attention. Une église qui s'ennuie. Dans mes tournées, je fais le tour depuis des années et je vais des fois dans des églises qui s'ennuient. Et une église qui s'ennuie parce qu'on n'est plus en avant, on n'évangélise plus, on ne progresse plus, on ne grandit plus, on ne fait plus de nouvelles choses, on ne développe plus de choses. Et là, il faut qu'on fasse quelque chose. Donc, on commence à chicaner sur la couleur du tapis. On commence à. Il y a trop de guitare, il n'y a pas assez de guitare, il y a trop de reverb, il y a pas assez de. Le son est trop fort. Un tel, savais-tu qu'une telle, un tel. Et là, en anglais, ils disent When fishermen don't fish, they fight. On est appelé à la pêche aux âmes. Voyez-vous? Alors, attention ce matin, la seule façon de ne pas tomber dans le piège de l'ennui, c'est défricher, nier. Un champ nouveau, se tenir dans des sillons frais, culture récente, dans ma vie, dans mon mariage, dans mes finances, dans mon travail, dans ma carrière, dans mon église, dans mon ministère. Tout le temps en train de développer, défricher, travailler, me tenir dans le nouveau tout le temps, et je suis assuré de ne pas m'ennuyer. Amen. Attention en ce début d'année 2014. Attention de ne pas pencher vers l'arrière. Attention de ne pas être attiré par le vieux champ. Parce que le vieux champ est séduisant. Pourquoi? Parce que le vieux champ ne demande pas trop, il ne se passe pas grand-chose, donc c'est relax. Le vieux champ, on l'a assez travaillé, comme à un moment donné, bon, ça marche tout seul, cette affaire-là. Et puis, à un moment donné, tu n'es plus défié, tu n'es plus étiré, plus besoin de prier, ça marche tout seul, cette affaire-là. Et c'est une séduction. Parce que contrairement au vieux champ, le nouveau champ, lui, il prend tout de toi. Il fait peur. Parce que c'est de l'inconnu. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui restent dans l'ancien champ. Mais dans l'ancien champ, c'est la mort. La vie, elle est dans le nouveau champ. Donc, peu importe qu'il a été positif ou négatif l'ancien champ, j'entre en 2014 dans le nouveau champ. Dans ma vie, il va y avoir nir en 2014, des sillons frais, une culture récente. La question que je vous pose et que je me pose ce matin, c'est quand la dernière fois que nous avons fait quelque chose pour la première fois? C'est quand la dernière fois que j'ai fait quelque chose pour la première fois? On est tout le temps en train de faire les mêmes affaires. On chante les mêmes chants, on prend le même chemin pour aller à l'église, on parle aux mêmes personnes, on a les mêmes amis avec les mêmes conversations après chaque réunion, on va au même restaurant avec les mêmes amis, avec la même conversation. On a le même job, la même carrière, le même ministère, les mêmes... C'est quand la dernière fois que j'ai fait quelque chose pour la première fois? Il n'y a rien de plus terrifiant que de faire quelque chose de nouveau. C'est vrai. C'est plus sécurisant de prendre le même chemin, d'aller en vacances au même endroit, d'aller après la réunion vers tout de suite nos amis qu'on connaît, que d'aller vers l'inconnu qui est là-bas. Puis là, je sais tout à coup que c'est plus facile. Mais les possibilités sont dans le nouveau. Qu'arriverait-il si? C'est extraordinaire le nouveau, mes amis. Je trippe sur le nouveau. Je crois de toutes mes forces que nous entrons dans une saison de nouvelles églises, plus que jamais. Il y a quelque chose d'extraordinaire dans les nouvelles églises. À chaque fois que je suis invité dans des nouvelles églises, ce n'est pas pareil. Nous avons implanté à Montréal, en avril, une nouvelle église. J'étais avec le pasteur récemment, le pasteur David Potier, qui a implanté cette église. Et on parle ensemble parce qu'en décembre, je suis allé prêcher à l'église, la chapelle. Et puis, j'arrive, je me présente devant la foule. J'en revenais pas à l'auditorium, mais c'est plein, deux réunions, tu sais, la vie en place, plein de monde. Le guitariste, il vient de donner sa vie au Seigneur. Tout est nouveau, même le guitariste, tout est nouveau. Le système de son est nouveau, tout est nouveau. Et je me souviens qu'en janvier, l'année passée, même période en ce moment, j'étais dans une pizzeria après la réunion de la jeunesse avec David. À 2h du matin, ils nous ont mis dehors, on s'est assis dans la voiture, on a parlé jusqu'à 3h du matin. Il était terrifié! Il était terrifié parce qu'il dit, on n'a pas d'argent, on n'a pas de salle, il n'y a pas d'église. J'avais un poste dans le ministère, j'étais sécuritaire, j'avais tout. Pourquoi? Il me dit, pourquoi j'ai tout laissé ça? Il dit, tout d'un coup, c'est extrêmement difficile de trouver des salles à Montréal. Il n'y avait pas de salle. Quand il est parti, il n'y avait pas de salle. Et là, je me retrouve, il y a quelques semaines, dans une salle où il n'y avait personne il y a quelques mois, et c'est plein de nouveaux mondes. Ça ne peut pas arriver, cette affaire-là. C'est une salle vide. Il y a 6 mois, c'est une salle vide. Il ne se passe rien. 6 mois plus tard, il y a du monde, des nouveaux, plein de nouveaux. Le nouveau attire le nouveau. Et plus tu fais des choses nouvelles, plus il arrive des choses nouvelles. On ne pouvait pas prévoir ça du tout. C'est ça qui est merveilleux. Mais s'il ne fait pas ça, on peut prévoir ce qui va arriver. Rien. En 2014, pour votre vie, pour ma vie, qu'arriverait-il si je faisais quelque chose de nouveau? Je défriche une nouvelle affaire, je défriche une nouvelle job, je défriche une business, je défriche un ministère, je lance quelque chose qui n'existe pas, on démarre quelque chose, je m'aventure dans quelque chose de nouveau, je rencontre des nouvelles personnes. Amen. Merci, Luc. La clé pour sortir de la pauvreté matérielle et spirituelle, c'est nir. Il dit, le champ nouveau que défriche le pauvre donne une nourriture abondante. C'est fort. Alors ce matin, si on veut sortir, si l'Église francophone veut sortir de la pauvreté spirituelle, parce que c'est vrai qu'il y en a toute une. Et pourtant, mon Dieu n'est pas un Dieu de pauvreté spirituelle. Mon Dieu est le top des possibilités, le top des ressources. Et comment se fait-il qu'on soit dans une telle pauvreté spirituelle? C'est parce que ça fait trop longtemps qu'on se tient dans l'ancien. Ça fait trop longtemps qu'on se tient dans l'ancien. Merci pour tout ce qui a été fait. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Mais le temps est arrivé d'entrer dans le nouveau. L'une des affaires que je ne peux pas reprocher à mes collègues dans le ministère francophone, c'est l'effort. Les gars, les filles, je ne connais pas beaucoup d'ouvriers francophones qui ne travaillent pas fort. Tout le monde bûche. Ça prie, ça jeûne, ça travaille, ça fait des réunions, ça se couche tard, ça se lève de bonne heure, ça travaille fort. Mais la vérité, c'est beaucoup d'efforts, peu de résultats. Et moi, je ne sais pas pour vous, mais moi, c'est pas mon style, ça. Moi, j'aime pas beaucoup d'efforts, des méga résultats. C'est pas parce que je suis paresseux. C'est que Dieu fonctionne comme ça. Les affaires de Dieu, c'est peu d'efforts, super résultats. Les affaires de Luc Dumont, c'est beaucoup d'efforts, pas de résultats. J'ai un de mes amis, il s'appelle Mario Dutille, il est allé au sommet de l'Everest il y a quelques années. Puis il m'a dit ceci, il m'a dit, Luc, la réussite, c'est la somme d'un effort intelligent. C'est qu'il y a des gens qui font des efforts, mais c'est pas intelligent. Donc, si tu fais un effort, mais pas intelligent, tu vas t'arracher. Moi, je suis pas quelqu'un de manuel. Des fois, je force après quelque chose, je casse tout. Là, tu as l'autre à côté, celui qui est intelligent, il dit, « Mais Luc, pourquoi tu forces comme ça? C'est comme ça, truc, ça se trouve tout seul. » Et pourquoi je prends son exemple, c'est qu'il me racontait qu'en 2004, il est allé au sommet de l'Everest. Et quand tu as réussi à faire le sommet de l'Everest, dans les mois qui suivent, tu es vidé, la demande physique est tellement grande. Et on lui a proposé, des collègues de montagne qui lui ont fait une proposition d'aller au sommet du McKinley en Alaska, qui est la plus haute montagne d'Amérique du Nord. Et c'est une montagne que au Népal, quand tu montes à l'Everest, tu as plein de Sherpas qui transportent le matériel. Donc, tout ce que tu as besoin, tu transportes un sac relativement léger, puis tu montes jusqu'en haut, ce qui est pénible quand même. Mais au McKinley, en Alaska, il n'y a pas de Sherpa. Tu transportes tout ton matériel, puis il fait extrêmement froid, moins 30, moins 40 à tous les jours. Et c'est extrêmement dur physiquement, c'est moins haut, mais la charge est énorme. Alors lui c'est un ingénieur, Mario c'est un génie incroyable. Puis il s'est dit, c'est sûr, si je pars avec cette équipe-là, je ne suis pas le plus fort. Parce que je suis brûlé de l'Everest, tout ça, il était le plus vieux de l'équipe, tout ça. Mais je ne serai pas le plus fort, mais je peux être le plus intelligent. Donc ce qu'il a fait, c'est qu'alors que tout le monde monte la montagne avec des sacs super pesants, tout ça, puis il monte... Lui est arrivé, c'est un ingénieur, donc il invente des choses. Il s'est patenté un sac, un petit sac sur son dos, avec une corde, avec un autre petit sac, une corde avec un autre petit sac, une corde avec un autre petit sac. Il y avait comme 5-6 sacs en arrière, mais des petits sacs. Puis vu que tu montes sur de la neige, mais ça traîne par l'arrière. Lui, un petit sac super léger, puis il monte comme ça. Tout le monde disait, aïe, aïe! Tout le monde disait, quelle idée incroyable! Donc, il est arrivé en haut, lui aussi. Il a fait un effort intelligent. Il a fait quelque chose de nouveau. Pourquoi je vous dis ça ce matin? C'est qu'il faut qu'on arrête, certains d'entre nous, il faut qu'on arrête de se battre pour quelque chose qui ne marche pas. Voici ce que je vous annonce en début 2014. Battez-vous de la même façon pour la chose qui n'a pas marché, puis à la fin de l'année, ça n'aura pas marché plus. Ce qu'on a besoin, c'est pas de faire encore des efforts dans quelque chose qui ne marche pas. Il faut faire des nouveaux efforts. On attaque des vieux problèmes avec des vieilles solutions qui ne marchent pas. Si on fait encore ça cette année, bien, ça va être la même affaire à la fin d'année. Je vous propose des nouvelles solutions. Merci. 2014, nouveau, Sion, Nir, quelque chose de nouveau. L'œuvre de Dieu, il faut qu'on refasse l'œuvre de Dieu d'une nouvelle façon. Jésus ne change pas. Le message ne change pas, mais est-ce que ça se pourrait que la société ait changé? À une certaine époque, il n'y avait pas d'ordinateur. C'est quand même un détail important, il n'y avait pas d'ordinateur, il n'y avait pas d'Internet à une certaine époque. À une époque, il n'y avait pas de système de son. On est dans une nouvelle époque avec un nouveau peuple, des nouvelles personnes. L'Évangile ne change pas, mais est-ce que ça se pourrait qu'il faudrait qu'on approche la société d'une nouvelle façon? Pour qu'on fasse quelque chose de nouveau. Si on fait les mêmes choses, si on défriche le même champ, on va avoir les mêmes résultats. Dans nos vies, c'est la même chose. Si vous n'êtes pas satisfait, si on n'est pas satisfait de la vie que nous avons en ce moment, on se dit, ma vie, ça ne marche pas, ma vie, je suis tanné, j'ai toujours les mêmes batailles, toujours les mêmes problèmes, ça n'avance jamais, eh bien, c'est à nous de choisir, défricher un champ nouveau. On va essayer quelque chose de nouveau en 2014. Amen! Dieu veut faire quelque chose de nouveau. Ce que ça veut dire pour vous et pour moi, ça veut dire qu'il faut qu'on entreprenne des nouvelles choses, il faut qu'on réinvente notre vie, il faut qu'on démarre des nouveaux ministères, il faut qu'on démarre des nouvelles églises, il faut qu'on démarre des nouveaux projets, il faut qu'on réoriente notre carrière, certains d'entre nous. Il y a certains d'entre vous, par exemple, moi je suis allé au camp de base de l'Évêque, je n'ai pas été jusqu'en haut. Je suis allé au camp de base. Il y a des gens qui se contentent du camp de base alors qu'ils ont le potentiel d'aller jusqu'au sommet d'Everest. Quelle tristesse! Aller au camp de base, c'est merveilleux. Mais quelle tristesse de se contenter du camp de base quand tu as en toi le potentiel d'aller jusqu'au sommet. Et certains d'entre nous, ce matin, on se contente de ce qu'on a en ce moment, alors qu'il y a des trésors qui dorment dans plusieurs personnes ici, des trésors de potentiel, de possibilités de Dieu, de rêves de Dieu, de projets de Dieu, de talents, d'intelligence, de connaissances, d'expérience, qui Dieu veut juste le relâcher. Rien de moins que le sommet de la montagne. Amen. Défricher un champ nouveau. Salomon nous donne la solution. Premièrement, le futur est dans le nouveau. Si vous oubliez tout ce que j'ai dit ce matin, ça, c'est possible, ça arrive des fois. Retenez au moins ça, le futur est dans le nouveau. Salomon nous donne la façon. Il dit dans Proverbes 24, 27, il dit, comment qu'on peut défricher le champ nouveau? Quelques minutes avant de terminer ce matin. Il dit, soigne tes affaires au dehors, mets ton champ en état, puis tu bâtiras ta maison. Salomon, on sait de quoi il parle, c'est un bâtisseur, il a construit le temple. Il connaît la construction et le mot qu'il utilise pour soigner, c'est le mot hébreu « koun », qui veut dire « établir, être ferme, mettre de l'ordre ». Pourquoi j'utilise ce passage ce matin? C'est que, tu appuies sur le bouton, voilà, c'est ça. Et pourquoi je dis ça? Parce que je veux ramener un peu l'équilibre. J'ai remarqué que des fois, les chrétiens, on a tendance à partir d'un bord ou partir de l'autre. Et là, il y a des gens qui partent là-dessus. Luc Dumont l'a dit, « Nouveau, demain matin, on rentre à job, je quitte la job! » Ça se peut, tu peux prendre la décision ce matin, on peut prendre la décision ce matin, ma job c'est fini. Mais ça ne veut pas dire que demain matin, je démissionne. Attention! Avant d'entrer dans le nouveau, il faut mettre de l'ordre, établir, être ferme, mettre de l'ordre dans le champ existant. Très, 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 très important. Attention à l'impulsion que peut provoquer le nouveau. Le champ nouveau n'est pas une fuite, mais une suite du champ actuel. Ouh! Le niveau de baisser. Le champ nouveau n'est pas une fuite, c'est la suite. Dieu est conséquent dans tout ce qu'il fait. Et quand il ouvre quelque chose de nouveau, ce n'est pas pour qu'on sabote ce qui est là et on laisse tomber ce qui est là. Mets de l'ordre. Et ensuite, attention à tous ceux et celles qui laissent tomber. Ne laissez pas tomber. Ne vous sauvez pas de votre champ. Ne vous sauvez pas de votre job. Ne vous sauvez pas de votre église. Ne vous sauvez pas de votre ministère. Ne vous sauvez pas de vos enfants. Ne vous sauvez pas de votre famille. Ne vous sauvez pas de votre responsabilité. Soigne tes affaires. Le mot hébreu pour affaires, c'est le mot melaka, qui veut dire aussi travail, business, devoir, occupation, projet, tâche, mission, œuvre. Voyez-vous? Alors, certains d'entre nous, le champ actuel a besoin d'être défriché et être amené à un autre niveau. Mais avant de faire quoi que ce soit, il faut mettre de l'ordre dans nos affaires. Si on veut entrer dans le nouveau, on ne sauve pas, on termine comme il faut le champ actuel avant de passer à la prochaine étape. Attention! Vous savez, j'ai beaucoup de difficultés quand je vois des gens sauter tout de suite dans le nouveau puis laisser tomber. C'est comme la personne qui, aujourd'hui, elle pleure le départ de son mari, puis demain matin, elle est sur le site Internet de rencontre. C'est un peu vite, là. Le gars qui arrive dans la nouvelle église, je veux m'impliquer, pasteur, moi, c'est mes talents, mes ministères. Mais hier, tu étais en chicane avec l'autre église, puis tu n'as rien de réglé encore. Wow! Attention! Le gars qui veut implanter une église, on implante une église, mais celle dans laquelle il est en ce moment, ne marche pas. Wow! Je veux démarrer une nouvelle carrière, je veux une promotion, patron, donnez-moi une promotion, mais tu n'as aucun succès dans ce que tu fais en ce moment. Je veux démarrer une nouvelle entreprise, celle-là ne marche pas, tu dois de l'argent à tout le monde, je quitte ça, je change de nom, je pars quelque chose de nouveau. C'est pas ça du tout, le champ nouveau. Vous êtes toujours là? C'est le contrebalanc du message ce matin. Voyez-vous? Attention, c'est la suite, ce n'est pas une fuite. Je veux une maison de vacances, tu n'es même pas capable de t'occuper de celle que tu as en ce moment. Je veux un ministère dans l'Église. Je veux m'impliquer. J'ai un appel sur ma vie. Mais jamais que je me lève le matin pour prier et lire la Bible. J'étais, il y a quelques temps, j'étais avec un collègue, et puis il y avait un monsieur qui courait sur le bord du chemin, puis c'était, ça avait l'air pénible. Oh! Et mon collègue dit, lui, là, il devrait apprendre à marcher avant de commencer à courir. C'est vrai! J'ai un monsieur, je fais beaucoup de vélo, j'ai un monsieur que je connais au magasin de vélo, que je croise régulièrement, et je l'ai vu il n'y a pas longtemps. Et le monsieur a un vélo full carbone à l'affaire de 12 000 $ Puis il est celui-là avec son vélo, puis il est en train de fumer avec un vélo de 12 000 $ Mon gars, arrête de fumer, puis achète-toi un vélo de 1 000 $ ça va faire la job. Vous me suivez? C'est qu'on pense à l'autre étape avant de régler celle-là. Vous savez que je vous aime, hein? Mets ton champ en ordre. Écoutez bien ceci, je vais terminer dans quelques minutes, mais écoutez bien ceci. Je travaille comme si le champ existait déjà. Même si celui que j'ai en ce moment n'est pas super, je travaille comme s'il existait déjà. Je mets de l'ordre en ce moment pour me préparer pour la suite. J'ai un de mes amis pasteurs, lui son don, le don que Dieu lui a donné, c'est d'arriver dans une place qui est en train de mourir, puis il va arriver dans la place, puis bang, il va redonner la vie à la place, organisée, structurée, tout ça. Et en début d'année 2013, il est arrivé dans une église comme ça, il a pris une église qui était vraiment en train de mourir. Littéralement, pourquoi? Parce que j'ai prêché dans cette église-là l'année d'avant, et j'étais complètement, j'avais plus d'espoir pour cette église-là, tellement c'était mort. Il n'y avait plus, j'étais tellement béni ce matin de voir un paquet d'enfants, tout ça, il n'y avait plus zéro enfant dans l'église. Tellement l'église a vieilli et ne s'est pas renouvelée, plus d'enfants, plus de ministère d'enfants, plus rien. Il est arrivé, quand il a pris la direction de l'église, quelques semaines après, il est arrivé un dimanche matin devant l'église, zéro enfant à l'éducation chrétienne. Il dit « Bonjour à tous, ce matin je vais vous présenter Madame une telle. Madame une telle, à partir de la semaine prochaine, est en charge du ministère des enfants. » Quand il a dit ça, il y a eu comme un « bouh ». Tout le monde a regardé comme un extraterrestre. « Il y a zéro enfant !» Il dit « À partir de maintenant, dans cette église, il y aura un ministère d'enfants, même s'il n'y a pas d'enfants, et Madame une telle est en charge du ministère d'enfants. » Eh bien, la semaine suivante, le premier enfant est apparu. Et moi, je suis allé peut-être 2 mois après, et il y avait déjà une dizaine d'enfants. Il y avait zéro enfant. Il a mis de l'ordre dans le champ qui est en train de mourir, comme si ça existait déjà, et quelques mois plus tard, il y a 10 enfants. Donc, dans notre vie, préparons pour qu'est-ce que nous voulons. Je viens de dire quelque chose de vraiment bon, là. Préparons pour ce que nous voulons. En anglais, ils disent « fake it till you make it ». J'ai un jeune homme que j'aime beaucoup, je l'aime vraiment de tout mon cœur, un jeune homme avec un potentiel hallucinant. Lui, là, il veut être un businessman. C'est vraiment son rêve, puis il a vraiment le potentiel, le petit gars, il a vraiment le potentiel. Il s'est acheté un Hugo Boss, un habit Hugo Boss, mais il a acheté ça dans une friperie, quelque chose comme ça. Un Hugo Boss, il a payé ça peut-être 30 $ mais le vrai suit, il s'est acheté une BMW, mais genre 1978. Et il met sa clé tout le temps quand il va au restaurant, il met sa clé de BMW sur la table. C'est une 78, mais les gens ne savent pas, c'est une clé. Ce gars-là, je suis sûr qu'il va avoir un super succès dans la business. Il se prépare pareil comme si c'était déjà arrivé. Alors, bâtissons des églises pareil comme si c'était des méga-églises. Travaillons l'œuvre de Dieu pareil comme si c'était déjà plein. Faisons les choses avec excellence, pareil comme s'il y avait plein de gens qui viendraient, pareil comme si le maire de la ville viendrait toutes les semaines à notre église. Prépare ton champ, mets ton champ en état. Nir. Un champ nouveau. Et ce matin, je veux conclure avec ceci. Il y a plein d'autres affaires, mais je vais terminer avec ça. J'ai un luthier avec lequel je fais affaire, qui entretient ma guitare. Je vais 2 fois par année le voir. C'est un gars extraordinaire. Pas tout de suite. Et c'est un gars super. C'est un passionné de guitare. Ça n'a aucun sens. Je suis sûr qu'il se couche avec des guitares le soir. Ça n'a aucun sens. Il aime les guitares, il voit un potentiel dans les guitares, il construit des guitares, il est talentueux, tout ça. C'est Peter Shannon, c'est un musicien, tout ça. Un homme de Dieu, il aime le Seigneur à fond. Et habituellement, je laisse ma guitare, puis il me la rapporte après, une fois qu'elle est préparée. Mais là, cette fois-ci, je suis allé avec lui dans son atelier pour faire l'entretien de ma guitare. Et lui, c'est ce genre de gars, lui, qui travaille 10 minutes puis parle pendant une heure. Et il parle de guitare, de bois, et je comprends absolument rien de quoi qu'il parle, mais il parle de bois, toutes sortes d'outils, tout ça. Puis là, il m'a dit, Luc, il faut que je te montre quelque chose. Et un de nos amis communs est allé lui porter, il y a quelques temps avant ça, une vieille guitare pourrie. Littéralement, une guitare qui a déjà été glorieuse. Gibson, c'est des super guitares. Et est allé lui porter, il a pris des photos, il est allé lui porter cette guitare-là. Et là, photo suivante. OK, on ne bouge plus. Quand ils m'ont montré ces photos-là, moi, tu serais venu me porter cette guitare-là, j'aurais dit, bon, on a du bois pour faire un feu de camp. J'aurais dit, fini. Elle a déjà été glorieuse, cette guitare-là, mais elle a mal été entretenue, elle a été négligée. Je ne sais pas ce qu'il a fait avec le gars, mais elle scrap. Mais lui, le luthier, n'a pas vu la guitare de la même façon que moi. Il n'a pas vu l'état dans lequel elle était. Il a vu le potentiel de ce qu'elle pouvait devenir. Et là, il a tellement été passionné, il a travaillé pendant des mois sur cette guitare-là, puis les différentes photos. Il a tout complètement restauré. Je veux dire, regardez-moi ça, là. Il a restauré la guitare, du nouveau bois, des tables de résonance, toutes sortes d'affaires. Il a travaillé, fait coller, faire sécher, façonner, tout ça. Et puis finalement, à la fin, ça donne une guitare absolument extraordinaire que j'aurais achetée tout de suite. Et il me dit, Luc, il faut que tu regardes cette vidéo. On va regarder la vidéo dans un instant. Il dit, regarde la vidéo de notre ami commun qui s'appelle Jimmy Lahaye. C'est lui qui joue sur l'album Héritage, c'est un guitariste extraordinaire. Et c'est lui qui est allé porter cette guitare pourrie, qui est devenue une guitare extraordinaire. Et j'ai cru bon vous montrer la vidéo, juste pour que vous entendiez la résonance, le son de cette guitare qui, selon moi, était condamnée. Et ce qu'un luthier peut faire avec une guitare qui a l'air condamnée, dans laquelle il a vu le potentiel. Regardez bien la vidéo, écoutez bien surtout le son de cette guitare qui était... Quelle image spirituelle extraordinaire. C'est-à-dire que certains d'entre nous, certaines églises, certains individus qui, avec les difficultés de la vie, avec les obstacles de la vie, on perd notre résonance. Il y a des chocs qui viennent briser, casser, abîmer. Il y a de la sécheresse qui fait craquer les guitares. La sécheresse, si tu ne gardes pas ton guitare dans une certaine humidité, ça fait craquer. Les guitares craquent, cassent, brisent, négligées. Peut-être qu'elle a passé des années dans un garde-robe oublié, abandonné. Mais quand le luthier la prend, peu importe son état, lui, il voit ce qu'elle peut devenir. Et il prend cette guitare-là et il la façonne, il la guérit, entre guillemets, il la restaure. Et la fait ressonner probablement mieux qu'elle n'a jamais sonné. Et c'est exactement ce que Dieu est capable de faire avec nos vies. Des fois, on est abîmé, cassé, brisé, on a perdu notre son. Combien de gens je rencontre 20 ans plus tard, 10 ans plus tard, qui ont perdu leur son? Des gens que j'ai déjà entendus, des ministères qui ont déjà résonné, qui ont déjà eu un écho incroyable. Des gens qui avaient une vie qui dégageait. À un moment donné, différentes choses de la vie, des obstacles, des déceptions, des blessures, des maladies, des difficultés, des trahisons, toutes sortes de choses qui viennent, puis tu perds de plus en plus ton son. Mais Dieu, ce matin, nous dit, en ce début d'année 2014, que si on est prête à faire quelque chose de nouveau avec ce qui existe déjà, notre vie, il peut nous redonner du son comme jamais. Il nous redonne une autre vie. Il nous donne un nouvel espoir. C'est Dieu du nouveau. Alors, 2014, défrichons un champ nouveau. Je me lance, Seigneur. Peu importe où je suis en ce moment, je te permets, Seigneur, de tracer des sillons frais dans ma vie. Fais une culture récente dans ma vie, dans mon cœur. Nouvelle vision, des nouveaux rêves, des nouvelles choses, des nouveaux horizons, un nouvel élan, un nouveau feu spirituel, une nouvelle passion, une nouvelle vie de prière. Je recommence à lire la Bible comme si je ne l'avais jamais lue. Je recommence à prier le Seigneur comme si c'était des nouvelles prières, une nouvelle approche à ma vie spirituelle. Et attention, ce qui va se passer d'ici la fin de l'année, il va se passer des choses, des nouveaux chemins. Amen. J'aimerais qu'on puisse pencher nos têtes, fermer nos yeux, si vous voulez bien. Ce matin, on va clôturer ce service par un moment de prière. Et j'ai à cœur de prier avec vous. J'ai à cœur de présenter cette nouvelle année au Seigneur. J'ai à cœur vraiment de prendre quelques instants pour s'approcher du Seigneur. On a quelques minutes devant nous et je ne peux pas partir sans qu'on prenne ce moment. Et pendant que nos yeux sont fermés, c'est un moment, on est un groupe, mais j'aimerais attirer l'attention sur vous personnellement. C'est un moment personnel maintenant. Et j'aimerais ce matin particulièrement prier avec tous ceux et celles qui sont parmi nous, qui ont besoin de raisonner à nouveau. Je crois qu'il y a certaines personnes que vous avez perdu votre son. Soyons honnêtes, j'ai perdu mon son. J'ai perdu ma résonance. Mais ce matin, je suis prêt à dire au Seigneur des sillons frais. Une culture nouvelle dans ma vie, dans mon cœur. J'ai besoin que le Seigneur, le divin luthier, le divin potier, j'ai besoin qu'il vienne faire quelque chose de nouveau en moi. J'ai besoin d'un feu nouveau. J'ai besoin d'une passion nouvelle. J'ai besoin d'un renouvellement de mon intelligence. J'ai besoin d'un renouvellement de ma passion pour le Seigneur. J'ai besoin de quelque chose de nouveau dans mon mariage. J'ai besoin de quelque chose de nouveau dans ma carrière. J'ai besoin de quelque chose de nouveau dans mon ministère. J'ai besoin d'une vision nouvelle face à des vieux problèmes. Alors, tous ceux et celles ce matin qui ont besoin et qui veulent dire, Seigneur, nire dans ma vie, une culture nouvelle dans ma vie. Juste lever nos mains, pas devant moi, mais devant le Seigneur, partout dans cette place, Seigneur, culture récente dans ma vie. Quelque chose de nouveau en moi, Seigneur. Amen. Tous ceux et celles, on peut baisser nos mains, tous ceux et celles qui veulent dire ce matin, Seigneur, je suis prêt. Je suis prêt à entrer dans la suite. Je quitte le vieux champ ce matin. Même si, comme on a mentionné, il y a des choses qu'il faut que soient mises en ordre, il y a des choses qu'il faut, je ne me sauve pas, mais je choisis dans mon cœur ce matin de quitter le vieux champ. Je veux le nouveau champ. Si vous n'êtes pas convaincu, on ne lève pas notre main, c'est juste ceux et celles ce matin qui disent, moi je prends la décision. En ce début de janvier 2014, je quitte le vieux champ pour entrer dans le nouveau. Si c'est votre désir, juste levez vos mains devant le Seigneur, pas devant moi, j'ai mes yeux fermés, ça ne me regarde pas, c'est entre vous et Dieu. Je quitte le vieux champ, je veux entrer dans le nouveau de Dieu. Amen. On va se lever maintenant tous ensemble. J'aimerais ça qu'on puisse s'approcher du Seigneur juste pour 5 minutes, quelques instants au pied de la croix. Et je vais inviter à s'approcher tous ceux qui ont levé la main, peu importe la raison pour laquelle vous avez levé votre main, c'est vraiment personnel entre vous et le Seigneur. Mais je vous invite ce matin à vous approcher devant le Seigneur. Il y a quelque chose de puissant lorsqu'on s'approche. Il peut nous toucher à notre place, mais quand on s'approche, c'est comme on fait un pas devant le Seigneur. Et si vous voulez vous approcher, vous agenouiller devant lui, c'est comme vous voulez. Mais prends ma vie, Seigneur, je te la donne ce matin. Transforme-moi. Alors, tous ceux qui ont levé la main, sans hésiter, on peut s'approcher du Seigneur. La Bible dit, approchez-vous de lui, il s'approchera de vous. Prends ma vie, je te la donne, Seigneur.
Vous venez d'écouter un message provenant de l'Église Nouvel Espoir située au 2224 rue Innis à Ottawa, au Canada. Notre code postal est le K1B4C4. Vous pouvez accéder gratuitement à nos messages par le biais de notre site web www.eglisenouvelespoir.com. Si vous avez des témoignages de vie transformée au travers de ce ministère, écrivez-nous à transformation info@eglisenouvelespoir.com ou vous pouvez nous joindre au 613-909-7274.